pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Là, si la machine descend, là, il y a une trentaine d'arbres qui vont tomber, là. 30 arbres qui ont mis 120 ans à pousser, quoi. Ils ont vu les deux guerres, quoi. Ils ont vu nos grands-parents passer dessous. Ne pétez pas ces arbres, s'il vous plaît, quoi.
31 août 2023, chantier de l'autoroute A69.
À partir du moment où la tête abatteuse touche un arbre, j'entre en grève de la faim.
Extrait du documentaire de Off Investigation, Autoroute A69, l'affaire personnelle de Macron.
Si vous continuez à couper les arbres, même si vous pensez qu'en ayant fini d'abattre tous les arbres, je vais sortir de la grève de la faim, je la continuerai pour les terres agricoles. Ça prend effet à partir du moment où la machine touche un seul arbre.
Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio encore libre préférée. On va aujourd'hui à nouveau parler d'écureuils avec votre invité, Thomas Braille, l'un des fondateurs du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres, l'un des écureuils de la 69 qui a aussi fait 40 jours de grève de la faim dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique. Retour sur l'origine du terme écureuil.
En fait, il y a un grimpeur du GNSA qui a pris un arbre sur la 69. Une fois qu'il était en haut de l'arbre, il a dit « tant qu'il y aura des arbres, il y aura des écureuils ». Et cette expression, elle est restée en fait. Quand on parle des écureuils, ben, on a tout de suite en tête la 69. C'est le mode d'action du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. D'autres l'utilisent maintenant et tant mieux. Nous, on n'a pas d'armes en fait, on n'a rien. Notre seule arme, ce sont nos cordes et nos téléphones. Nous, on est dans la non-violence, je parle pour le GNSA, on est vraiment dans la non-violence. On essaye de faire comprendre les choses par non-violence. On y arrive, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est notre façon de faire, on fait du mieux qu'on peut.
Thomas Braille, on l'a rencontré à Juvisy en octobre 2025 lors d'une escale de l'expédition Bateau Labo. Et depuis cette conversation, le feuilleton judiciaire de l'A69 a dramatiquement rebondi. Vous verrez au cours de cette émission que ces militantes et militants écologistes désignés par le pouvoir comme d'épouvantables et dangereux éco-terroristes sont de fait, et même si ça peut en agacer certains et certaines qu'on le dise, des défenseuses et défenseurs du bien commun, du droit et de la légalité.
Je veux dire, aller s'accrocher dans un arbre, c'est facile, mais l'idée à la base, c'est de dire il y a des articles de loi, là vous avez une illégalité sur les espèces protégées, et nous, on est là parce que vous ne la respectez pas. Quand il y a des illégalités, ben en fait, la loi est la même pour tout le monde. Et quand il y a des arbres, quand on peut les sauver, bon sang, essayons de les sauver. L'oxygène qui rentre dans mes narines aujourd'hui me permet d'échanger avec toi, et toi pareil. On a des températures de plus en plus caniculaires, et à partir du moment où on aura de moins en moins d'arbres sur cette terre, il va faire de plus en plus chaud. Et c'est déjà le cas, en fait, quoi. Au lieu de renforcer les lois de protection parce que tout va mal, on ouvre encore plus les vannes. Carrément, en fait, on veut faire passer une loi pour déprotéger les espèces protégées. C'est n'importe quoi. Et on dit aux grands porteurs de projets qui veulent piller, eh bien, allez-y, pillez encore plus, quoi. Je suis atterré, en fait, quoi. Je suis vraiment atterré, quoi.
Il va vous le raconter au cours de cette conversation. Avant de se lancer dans ces luttes de défense du vivant, Thomas Braille n'était pas un militant chevronné, mais un citoyen lambda, père de famille et artisan.
Tout ça, je connaissais pas, moi, tout cet univers-là, en fait. J'avais jamais côtoyé de ZAD, je savais pas ce que c'était, en fait. J'avais jamais les zones d'action, les zones à risque. Tout ça, je connaissais pas avant la 69. J'avais fait des actions pour sauver des arbres, mais ça n'avait rien à voir de ce que vraiment une lutte. Je sais aujourd'hui ce que c'est que l'odeur des gaz lacrymogènes, je sais tout ça, mais je l'ai pas fait par envie, je l'ai fait par nécessité, en fait. Moi, je suis chef d'entreprise, quoi. J'ai une entreprise. J'ai perdu beaucoup d'argent depuis que je travaille pas. Après, je suis pas en train de pleurer, je suis pas en train de demander des sous. C'est un choix de vie, quoi. Et puis, on fait du mieux qu'on peut, quoi, quotidiennement. Donc, bien évidemment, il y a rien de facile. Mais on fait ça parce qu'on a des gosses et parce qu'on n'a pas envie de les laisser dans la galère, tout simplement, quoi. Voilà.
15 octobre 2025, l'expédition Bateau Labo qui navigue en direction de l'estuaire du Danube fait escale à Juvisy, donc en banlieue parisienne, pour une table ronde où l'on rencontre Thomas Braille. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ça fait depuis 2019 qu'on t'entend à la radio, qu'on te voit sur écran, notamment un off investigation assez terrible sur l'A69 avec les écureuils et avec le GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. Aujourd'hui, on se rencontre fin octobre. Comment vas-tu ?
Écoute, ça va, on a eu le temps de s'en remettre, quoi. C'est vrai que ça n'a pas été une épreuve facile, parce que la dernière lutte, elle a mis nos corps à dure épreuve, et nos cœurs, oui, j'ai envie de dire même, à dure épreuve. Donc voilà, il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des grèves de la soif, j'étais pas le seul à le faire non plus, je m'attribue pas la gloire de ces trucs-là, mais bon, voilà, ça a été assez compliqué, ouais, vraiment, quoi.
Et là, ça va, vous vous êtes retapé, toi et tes copains écureuils ?
Oui, parce que là, ça commence à faire maintenant un petit peu de temps que les choses se sont passées, donc on a eu le temps de s'en remettre. Après, si je dois parler personnellement, c'est vrai que des grèves de la faim, c'est assez dangereux. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait 40 jours, et on tape dans la graisse, et comme moi, j'avais pas trop de graisse à la base, parce que mon métier est assez physique, et en fait, on tape dans le muscle après. Et ça laisse quand même des séquelles, quoi.
Ça doit taper aussi dans le moral.
Bien sûr, ça tape dans le moral. Après, on ne va pas se mentir, les luttes elles sont assez compliquées. On n'est pas toujours en haut. Enfin, le moral, il n'est jamais toujours en haut. Un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas. Ça fait le yo-yo en permanence. Donc, il faut se trouver des plages en fait, où on se ressource. Moi, mes plages de ressourcement, c'est mon fils, quoi. Mon petit garçon, moi, je me bats pour lui. Et on a cette responsabilité en tant que parent de le faire. Donc, si on n'a pas compris que nos gamins, on va les mettre dans une position délicate, si on ne fait rien aujourd'hui, eh ben, en fait, voilà, faut pas faire de gamins, j'ai envie de dire, quoi.
Les gens comme toi, comme tes copains écureuils, sont souvent qualifiés d'éco-terroristes. Alors, avant qu'on parte là-dedans, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que L350 alinéa 3, hein, vu que t'es un vilain voyou hors la loi?
En fait, moi, j'étais un citoyen lambda qui avait un travail, qui avait une famille.
Tu es arboriste, hein, c'est
moi,
comme ça qu'on dit.
Je suis arboriste grimpeur de profession. Donc, en fait, je grimpe dans les arbres en technique alpine. À l'époque, on disait grimpeur et lagueur, mais ils ont fait pas mal de bêtises avec les arbres. Du coup, on a un peu remodeler ça, et aujourd'hui on a un travail plus éthique avec les arbres. Moi j'étais quelqu'un de lambda, et à un moment donné, dans la vie d'une personne, il y a des choses qui basculent, et on se dit qu'il y a des choses qui sont pas tolérables, et en fait c'est comme ça qu'on bascule vers peut-être une lutte plus profonde, mais enfin, tout le monde à un moment donné peut s'y mettre, c'est juste que est-ce qu'on fait la bascule ou est-ce qu'on la fait pas.
Tu disais là, nous les écureuils, on fait pas ça par plaisir, ou pendant que vous luttez, vous n'êtes pas au boulot, vous occupez pas de vos familles. C'est aussi un prix très lourd à payer, c'est-à-dire que tu vois pas ton gosse et les sous, ils rentrent pas.
Non, mais en fait, c'est exactement ça. En fait, on nous fait passer pour des pulapis, hein, souvent c'est ça qui ressort. Donc pulapis d'éco-terroristes, de chômeurs, de tirs au flanc, comme quoi on tirerait sur les allocations, j'en sais rien, enfin bref. Enfin, il n'y a pas que ça dans les luttes. Mais, bien sûr, il y a des gens, parfois, ils ont du temps à donner. Bon, ce sont des personnes que je respecte et qui sont hors système parce qu'ils trouvent que le système fonctionne pas. Ben, moi, je respecte leur point de vue parce que je trouve que le système, il pourrait mieux marcher que ça. Et après, la grande majorité des gens, c'est des gens qui ont des familles. Parfois, peut-être oui, qui ont des petits crédits et qui font du mieux qu'ils peuvent. Ils essayent de cumuler le travail et puis le temps qu'il leur reste pour aller sur les luttes. Moi, je suis chef d'entreprise, quoi. J'ai une entreprise. J'ai perdu beaucoup d'argent depuis que je travaille pas. Après, je suis pas en train de pleurer, je suis pas en train de demander des sous. C'est un choix de vie, quoi. Et puis, on fait du mieux qu'on peut, quoi, quotidiennement. Donc, bien évidemment, il y a rien de facile. Mais on fait ça parce qu'on a des gosses et parce qu'on n'a pas envie de les laisser dans la galère, tout simplement, quoi. Voilà.
Avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Toujours avec Thomas Braille, l'écureuil, insistons sur ce gros mensonge du pouvoir consistant à faire passer les écologistes pour des terroristes. Or, que ce soit sur l'A69, les méga-bassines et autres luttes écolo, c'est supposé, hors la loi, défendre le droit et la loi, ici le respect de l'article L253-3.
Pour venir au L350-3 du Code de l'environnement, ouais, ça c'était en 2019, en fait, à Mazamé. Moi, j'étais jardinier pendant 10 ans dans cette ville. Et il se trouve qu'il y avait l'abattage d'un alignement de 9 platanes qui était à peu près âgé de 120 ans. Et j'ai appris qu'on voulait les abattre, sauf que c'était pas mon secteur de la ville que j'entretenais. On avait plusieurs secteurs, c'était divisé en secteurs, sauf que ces arbres-là, je les connaissais quand même. Et les anciens collègues sont venus m'alerter en me disant qu'ils voulaient les couper. Je me suis dit, tu vas aller parler au maire pour lui expliquer que c'est pas possible. Ces arbres-là, il faut les garder. Ils n'ont pas une vocation économique. Ils sont au bord de la route. Ils jouent un rôle de décarbonation, de dépollution, d'oxygénation, d'humidification. Et puis, une fois que j'ai eu parlé avec le maire, on a l'impression que tout se passe bien. Et puis, au final, c'est pas du tout le cas, en fait. On attend. On n'a pas de réponse de la municipalité. Et on sait très bien qu'il y a un truc pas bon qui se prépare. Ben en fait, ils ont abattu sur les 9, il y en a 3 qui ont été coupés, moi j'en ai sauvé 7. Et en fait, c'est de là que tout s'est enchaîné, c'est de là où, c'est pareil, j'ai basculé en me disant, mais en fait, c'est pas possible quand même, ces arbres-là, ils sont protégés par un article de loi qui interdit l'abattage des arbres d'alignement. Donc, et puis de là, de fil en aiguille, je suis parti 28 jours au ministère de la Transition écologique, m'accrocher devant le ministère pour expliquer clairement que la ministre qui à l'époque était Elisabeth Borne, que ces arbres-là, il fallait les protéger mieux que ça. On a travaillé 1 an et demi avec le ministère de la Transition écologique et au bout d'un an et demi, on a essayé de coller un décret d'application parce qu'une loi, normalement, elle est suivie d'un décret d'application. Et en fait, on s'est aperçu que le décret, il était bien moins protecteur que la loi. Donc, en fait, c'était une régression permanente des protections environnementales. Et en fait, ça m'a complètement saoulé. Donc, je suis reparti plutôt en lutte dans les arbres, à monter une association que d'essayer de croire aux paroles politiques. Et après, voilà, ça dépend aussi des gouvernements qu'on a. Mais bon, celui-là, c'est difficile de lui faire comprendre quelque chose, quoi.
Toi qui as eu l'occasion d'approcher cette femme de pouvoir, Elisabeth Borne, donc à l'époque qui était au ministère de la Transition écologique, toi qui as pu l'approcher, discuter un peu avec elle, je ne sais pas si cette personne a des enfants qui, comme nous tous, sont composés environ de 70% d'eau. Quelle impression t'as fait de cette personne? Est-ce qu'elle a un cœur et un cerveau qui fonctionnent? Bon, je me pose souvent la question, mais qu'est-ce que ces gens qui pilotent cet écocide-là ont dans le crâne et dans le cœur? Quel ressenti ça t'a fait?
Enfin, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, j'ai toujours tendance à capter un petit peu ce qui se trame dans sa tête. Ces personnes-là, elles sont, j'ai envie de dire, il y a une forme de déconnexion quelque part, quoi. Elles sont soumises à des rendez-vous, elles font venir les gens, ça défile. Après, ce qui se passe intérieurement, pour la plupart, je pense que... je ne sais pas s'il y a quelque chose de vivant, en fait, dans ce corps, dans le corps de ces gens-là, en fait. Okay. C'est la question que je me pose. S'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas de ressenti, s'il n'y a pas d'humilité, vous parlez, en fait, à des sculptures en plâtre, quoi. Et moi, je trouve ça assez atterrant, quoi. Je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que l'humanité se vide de cette sensibilité profonde et j'ai l'impression que c'est voulu aussi, quoi. Si on n'a plus de sensibilité, ben, en fait, c'est la porte ouverte à avoir des crimes à la télé, avoir des gamins... moi, quand je peux en parler de Gaza, mais je regarde même pas aller à la télé, je sais ce que c'est, un gamin qui va mourir, quoi, mais... je sais pas, j'ai l'impression qu'on continue à regarder ça et puis on peut bouffer son steak en même temps, quoi. Moi, ça m'attriste, en fait, quoi. Ouais.
Ouais. Je souhaitais ouvrir cet entretien sous un aspect juridique des choses, et puis bon... t'as compris la grosse ficelle, hein, de démontrer que, en fait, malgré ce que disent les médias dominants, les méchants sont pas ce qu'on essaye de faire croire à l'opinion publique. D'ailleurs, les tribunaux administratifs, comme celui de Toulouse, par exemple, l'a bien tranché sur la 69, hein, en disant, bah non, en fait, les promoteurs et les bétonneurs sont dans l'illégalité. Même chose pour les bassines de Sainte-Soline, etc. Juste revenir sur un petit paradoxe juridique, c'est que le groupe national de surveillance des arbres est une association reconnue d'utilité publique.
D'intérêt général.
Pardon.
Ah oui, c'est reconnu d'intérêt général et pas d'utilité publique pour l'instant.
Donc par l'État, ce même État qui envoie des fonctionnaires de police ou des gendarmes taper sur des gens reconnus d'intérêt général.
Oui, c'est des choses qu'on met souvent en avant. On dit, c'est tout le paradoxe en fait du truc, quoi. C'est-à-dire que en fait, nous, on ne part jamais en lutte avec le GNSA si on n'a pas les outils juridiques derrière nous et si on n'a pas vérifié qu'il y a des articles de loi qui sont bafoués. Parce qu'on a une équipe d'avocats bénévoles performants et performantes, et du coup, on creuse les dossiers, et on part jamais sur un dossier si on l'a pas travaillé, quoi. Je veux dire, aller s'accrocher dans un arbre, c'est facile, mais c'est pas forcément ça l'idée à la base. L'idée à la base, c'est de dire, il y a des articles de loi, là vous avez une illégalité sur les espèces protégées, vous avez une problématique là, et nous on est là parce que vous ne la respectez pas. Et le pire, c'est que c'est nous qui, entre guillemets, qui dérouillons, hein, parce qu'une fois qu'on nous attrape, c'est de la garde à vue, c'est des procès. Bon, moi, je tiens à rappeler quand même que sur la 69, je n'ai pas été condamné, mais j'ai été appelé devant les tribunaux parce que j'avais bloqué donc justement l'abattage d'arbres qui étaient protégés par le L350-3, et j'avais aussi bloqué une pelle mécanique qui voulait abîmer le système racinaire d'un arbre. On touche toujours au L350-3, puisque que ce soit le houppier ou le système racinaire, la loi elle est valable pour l'arbre en entier, quoi. Et il se trouve que moi, j'ai été relaxé pour état de nécessité climatique. Et en fait, c'est assez rare, en fait, dans le domaine des défenseurs de l'environnement, d'être relaxé pour état de nécessité climatique. Donc ça prouve bien que la juge, elle a compris, en fait, le travail qu'on faisait. Elle a compris que le travail que l'on faisait, il était juste. Et voilà. Et en fait, c'est toujours nous qui perdons notre temps dans les gardes à vue, dans les tribunaux, parfois avec des peines et des amendes et tout, alors que les autres en face, il ne leur arrive strictement rien la plupart du temps. Et c'est tout ça qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui. Nous, on fait pas ça pour embêter. Moi, je fais pas ça pour embêter. Moi, je fais juste ça pour dire que quand il y a des illégalités, ben, en fait, la loi, elle est la même pour tout le monde. Et quand il y a des arbres, quand on peut les sauver, bon sang, essayons de les sauver. Parce que comme je le dis, l'oxygène qui rentre dans mes narines aujourd'hui me permet d'échanger avec toi et toi pareil. Donc, on a des températures de plus en plus caniculaires. Et à partir du moment où on aura de moins en moins d'arbres sur cette terre, il va faire de plus en plus chaud. Et c'est déjà le cas, en fait, quoi.
Comprendre aussi qu'il ne s'agit pas seulement que des arbres. L'arbre, en fait, en tant que représentant d'une grande chaîne dont on fait partie, toi et moi aussi. L'arbre, l'eau, l'arbre, il n'y a pas de l'un sans l'une. Et voilà. Et nous, on est au milieu de tout ça.
Ouais. En fait, j'étais en train de regarder mon téléphone en même temps que je te parle parce que l'État, en ce moment, est en train d'essayer de faire passer une loi pour déprotéger les espèces protégées. Quoi. Voilà, aujourd'hui, on est le 15. Donc, ça s'est arrêté hier au 14, la consultation publique. Donc, tout le monde pouvait laisser un commentaire. Et on a grandement relayé ça avec toutes les associations environnementales. Enfin, c'est quand même triste de se dire qu'aujourd'hui, on n'aura même plus besoin de demander des dérogations pour destruction d'habitats d'espèces protégées, même si je trouve que ces dérogations sont totalement à côté de la plaque, puisqu'on demande à détruire des espèces qui sont protégées. Mais bon, bref. Mais là, carrément, en fait, on veut faire passer une loi pour déprotéger les espèces protégées. En fait, ça veut dire que la filière bois, elle va pouvoir entrer dans les forêts, raser les forêts comme elle veut, quand elle veut. Ça veut dire des coupes rases, hein, veux-tu en bois-là pour de la biomasse ou j'en sais rien. Sans demander de dérogation, en fait, c'est open bar. Ça veut dire qu'on va pouvoir chaluter n'importe où sans dérogation d'espèces protégées, parce que peut-être qu'à des moments, ben, y a des poissons qui se reproduisent à telle ou telle date. En fait, c'est n'importe quoi. Au lieu de justement renforcer les lois de protection, parce qu'on est en 2025, parce que tout va mal, ah ben en fait, on ouvre encore plus les vannes et on dit aux grands porteurs de projets qui veulent aller encore plus vite, qui veulent piller, eh ben allez-y, piller encore plus, quoi. Moi, je suis atterré, en fait, quoi. Je suis vraiment atterré, quoi. Voilà.
Là, l'État, en ce moment, la Macronie, puis les autres, ils sont en train de détricoter de grandes lois environnementales, mais certaines qui datent des années 70. Tu disais open bar, là, ils sont en train de tout défoncer. Et pour tout défoncer, d'abord, on défonce le juridique, les lois.
Oui, on le voit, il y a une vraie régression mondiale, hein, même au niveau de la justice. On a l'impression que la parole politique, aujourd'hui, à partir du moment où certaines personnes sont au pouvoir, en fait, on a l'impression que ce qu'ils disent, c'est du pain béni, et puis on s'assoit sur ce que les magistrats ou les tribunaux pourraient dire. Et c'est là où il y a une vraie dangerosité, en fait. C'est que si on laisse tout ça comme ça en place aujourd'hui, avec tous ces politiques qui pensent que leur parole, c'est du pain béni, en fait, et qu'il faut s'asseoir sur les décisions de justice, ben, c'est le début des dictatures, en fait, quoi. Et ça, c'est plus possible, quoi. Il faut qu'il continue à y avoir une vraie séparation des pouvoirs. Il faut que les tribunaux ils puissent juger en toute impartialité. Il ne faut pas qu'il y ait de pression politique. Et ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on le voit dans certains pays, c'est vraiment compliqué. Et pour en revenir à la 69, le 27 février, il y a eu une décision de justice qui a dit qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur pour la construction de cette autoroute. Et malgré ça, quelques mois après, on a un rapporteur public qui, d'ailleurs, je tiens à le dire, n'avait absolument pas étudié le dossier, qui est arrivé la fleur au fusil, qui a subi très certainement des pressions politiques, parce qu'il est tout blême quand il balançait ses arguments. Et le tribunal, à nouveau, a statué en faveur de la reprise des travaux. On appelle ça le sursis à exécution. Ça veut dire qu'ils ont le droit de continuer les travaux tant que l'appel n'est pas jugé. Mais après, on sait tous vers quelle finalité ça va. Quand ils seront à l'appel, ils diront au juge, écoutez, les travaux sont pratiquement terminés, on ne peut plus l'arrêter. En fait, c'est la politique du fait accompli. Et contre ça, on est contre. C'est pour ça qu'on continue à se battre. Mais là, ils travaillent de 4h30 du matin à 23h. Et en fait, ben, les riverains sont excédés. Ils travaillent sans dérogation. Ils ont demandé une dérogation il y a à peine 6 jours, alors que ça fait 2 mois qu'ils travaillent sans dérogation. On s'aperçoit aussi qu'il y a une entreprise de sécurité qui travaillait pour Atosca. Et le gérant de cette entreprise de sécurité s'est fait attraper avec 6 personnes. Pour violence en groupe, en fait, j'ai plus les termes exacts. En gros, ils se sont fait attraper parce qu'ils ont incendié la maison d'une personne qui s'appelle Alexandra, qui avait des enfants, pour qu'elle parte plus rapidement, pour que les travaux aillent plus vite. Ils risquent jusqu'à quand même 20 ans de prison. Et ils ont été payés, ces gens-là, pour faire ces dégradations. je laisse les auditeurs et les auditrices se demander qui a bien pu les payer, puisqu'ils travaillaient pour l'entreprise de sécurité, travaillaient pour Atosca, donc la société qui construit la 69. Donc, vous voyez, après, on nous traite à nous d'éco-terroristes. Voilà, il faudrait peut-être un petit peu pointer les vraies personnes qui sont incriminées, quoi, voilà.
Et pour ce faire, vivement conseiller aux auditeuristes de regarder le off investigation consacré à Macron et la 69, où, comme par hasard, on découvre que Macron a des copains qui ont des intérêts financiers dans cette affaire, voilà, et à se demander qui sont les voyous, et puis d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, qui finit avec un bracelet électronique, voire même incarcéré, alors qu'il a été président de la République précédemment. Enfin, le sacré républicain en a pris un coup, quand même. Hein, ouais.
Oui, bien sûr. Après, on peut creuser. Hein. Enfin, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Mais Jean Terlier, c'est le député du Tarn, Renaissance, du parti du président de la République, qui s'attribue la gloire d'avoir été réélu une deuxième fois suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Il a été réélu parce que beaucoup de personnes ont fait barrage au Front National. Hein. Il a été remis en place à cause de ça. Et donc, sa femme travaille chez les laboratoires Pierre Fabre. Les laboratoires Pierre Fabre, c'est eux qui ont demandé la construction de cette autoroute, puisqu'ils ont investi au capital de la société Atosca, qui sont les constructeurs de l'autoroute. Et donc, il y a une vraie pression de la part des laboratoires Pierre Fabre qui veulent cette autoroute. Ensuite, on nous dit que cette autoroute, elle est d'intérêt public. Absolument pas. En fait, c'est les laboratoires Pierre Fabre qui l'ont demandé. Ils ont même mis une pression au ministère des Transports en disant que si cette autoroute ne se faisait pas, il n'investirait plus dans le sud du Tarn, hein, d'accord. Tout ça, ça a été révélé au grand jour par des cellules d'investigation de Radio France, ça a été très bien fait. Tout le monde a compris aujourd'hui, la bataille de l'opinion publique, ça fait bien longtemps qu'on l'a gagnée. Mais en tout cas, le problème, c'est que cette autoroute, elle continue, quoi, voilà.
L'idée, en fait, c'est quand même aussi de fabriquer des autoroutes, des couloirs à camions qui permettent de sillonner l'Europe de Gibraltar à Rotterdam et de Bordeaux à Budapest. Ouais. Et ce petit bout d'A69, là, c'était finalement un bout de couloir qui leur manquait peut-être pour aller vers l'Est. Au-delà des enjeux locaux de faire plaisir aux notables du coin et à son usine, on se rend compte, et grâce aux militantes et militantes de l'A69, que ce que vous avez vécu, en fait, on le vit sur tout le territoire national. Votre histoire, elle n'est pas isolée, c'est partout pareil. Faire des couloirs à camions pour notre chère Europe, au passage, faire plaisir à des marchands de béton, Bouygues, Vinci, Lafarge et compagnie, engraisser les copains, les coquins, c'est pas juste un enjeu local et que votre histoire, elle est emblématique parce que c'est l'histoire de tout le territoire national.
Oui, bien évidemment. Après, on tient à rappeler en fait qu'il faut une autoroute en parallèle d'une nationale qui n'est pas saturée, quoi. C'est de là vraiment que tout est parti, en fait, parce que ça n'a pas de sens d'aller encore abîmer de la terre agricole. On est sur 400 hectares de terre agricole abîmée. Enfin, de la terre agricole, aujourd'hui, il va falloir se mettre à la tête qu'on en a besoin pour se nourrir. Le béton, le bitume, ça fera jamais manger personne. Ça remplit les poches de ceux qui le font, de ceux qui le bâtissent et ceux qui le construisent, des investisseurs, des actionnaires, mais ça n'a jamais rempli le ventre des enfants ou des familles qui habitent en France. Comme tu l'as très bien rappelé, en fait, une autoroute, en fait, c'est pour faire du flux de camions et du flux de marchandises. Ça profite aussi aux quelques voitures qui vont l'utiliser pour aller bosser un peu à droite à gauche. Mais 17 euros l'aller-retour pour 12 minutes de gagné. On tient à rappeler aussi que le coût pour un camion, c'est 60 euros l'aller-retour. Donc, est-ce que les entreprises routières de camions vont le prendre? On n'en est pas persuadé. C'est aussi la porte ouverte à manger encore plus de terres agricoles parce que on sait toutes et tous très bien qu'à partir du moment où vous ouvrez une autoroute, en fait, vous mangez de la terre agricole et vous voyez naître des plateformes comme Ikea, Amazon, Decathlon, j'en sais rien, tous ces trucs-là. C'est vraiment une ouverture permanente, en fait, au grignotage de terres agricoles. Et ça, on n'en a vraiment pas besoin aujourd'hui, quoi. Je le dis, je le répète. On est sur la même problématique sur le canal Seine-Nord. 3300 hectares de terres agricoles, là, on a encore plus, c'est presque 10 fois plus que la 69.
Le fameux méga-canal.
Le fameux méga-canal, voilà, pour faire passer quoi, au final, des péniches où on va pouvoir mettre 4 ou 5 ou 6 hauteurs de containers que l'on voit sur les camions. Et donc là, une fois de plus, c'est pour aller encore plus vite. On tire des lignes droites, on scarifie le paysage français avec de l'eau qui va droit pour aller plus vite d'un point A à un point B. Et tout ça pour encore transporter de la marchandise qui, pour la plupart du temps, est inutile et consommable. Hein. Si c'est des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, c'est pas des super qualités ou tous ces gadgets. Voilà. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire gaffe à tout ça, quoi. Voilà.
On va faire une pause musicale de circonstance dans cette conversation avec Thomas Braille, avec Paloma, autre écureuil qui a séjourné dans un arbre de l'A69 au sommet duquel elle a composé des chansons, et notamment celle-ci où elle s'adresse à l'arbre qu'elle a occupé, un arbre baptisé Noguer.
J'avance sur le fil, je respire et ne me rebiffe, pendant que la CNAMO me renifle, ou en skinant à haut fil. Suis en train de jouer au Lego, avec mon vulnérable ego. Je danse nu sur une planche, en aveuglant la lumière blanche. On milite au-delà de nos limites, pour la limite des degrés. Mais on milite avec humilité. Mais on milite avec humilité.
Paloma, l'écureuil chantante, avant de retrouver Thomas Braille, écureuil du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. Et on vous le racontait dans un précédent reportage intitulé « Noisette et les écureuils ». Des écureuils, on en a aussi vu sur la grande mobilisation anti-mégacanal d'octobre 2025 à Longueuil-Annel, dans l'Oise, quand le samedi 10 octobre, quelques grimpeurs et grimpeuses ont accroché une plateforme en palette et une grande bannière dans un peuplier tremble baptisé Noisette par des enfants. Sur la bannière était inscrit « Grimper les centaines d'arbres menacés »,« Danser, ça, on ne pourra pas nous l'enlever »,« Occuper les 107 km de terre bientôt artificialisées ». On le rappelle, avec ses 3300 hectares de terres stérilisées, le méga-canal est un projet écocidaire, doublé d'un scandale financier à au moins 10 milliards d'euros d'argent public. Or, dès le dimanche 11 octobre, des gendarmes et des policiers de la CNAMO, Cellule Nationale d'Appui à la Mobilité, la police des arbres quoi, sont intervenus pour faire tomber plateformes et bannières. Et comme on vous le racontait dans le reportage, des scènes stupéfiantes ont alors eu lieu, notamment quand des écureuils se sont adressés à des policiers de la CNAMO en les interpellant par leur prénom.
Alors comment ça va la CNAMO ?
Oh la CNAMO, le piéton ! Marius, tu vas apprendre à grimper ! Marius, comment ça va ?
Oh Marius, on pourra récupérer la banderole !
Oh Marius, je viens pas dire bonjour ! Oh Max, Marius !
Allez la CNAMO, soyez cool, remets-nous la banderole.
T'as fait ta photo, rends la banderole maintenant.
Je viens la chercher moi-même si tu veux. Comme ça on se dira bonjour. Allez Max, sois cool, rends-nous la banderole.
Ça va Marius, tu passes un bon dimanche. Il sert à quelque chose ton dimanche, t'aurais pas préféré être en famille. Tu vois l'échelle que t'as dans la main, tu te rappelles, c'était la même à la Calandre il y a un an.
Là où t'as failli tuer des gens.
Les deux là qui ont passé un an avec un corset, les vertèbres fracturées.
Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous.
Ils n'ont pas inventé les chamallows ICO, c'est la CNAMO. Quand ils montent, on a froid dans le dos. À chaque instant, on risque notre peau.
Bonjour, je te vois porter ce porte-voix. Tu es la personne qui...
C'est Nacho, j'étais un écureuil de la 69 du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, en fait, monté par Thomas Braille. J'ai fait plusieurs luttes avec le GNSA. Et en fait, c'est une méthode de militantisme qui nous permet de monter dans les arbres. On est des grimpeurs professionnels, on monte dans les arbres et en fait, on construit des cabanes pour éviter qu'on les coupe. Et ça, ça fait venir une brigade, la brigade à qui je parlais justement, que je tutoyais, tout ça parce que je...
Les fameuses CNAMO.
Voilà, la CNAMO, que je connais par leur propre prénom parce qu'on se connaît. En fait, ils sont là pour ceux qui s'armloquent, ceux qui s'accrochent dans les arbres, ceux qui se mettent en danger. Mais ils sont la plupart du temps plus dangereux. Parce que sur la 69, ils ont fait tomber 7 camarades à moi, dont plusieurs qui sont restés plus d'un an en corsaire. Et il y en a encore qui ont des séquelles. Et voilà. C'est une brigade qui est très dangereuse, qui agit très mal et très incompétente. Moi qui est professionnel de grimpe, qui les trouve vraiment très incompétents au niveau grimpe. La preuve, ils utilisent une échelle, vous avez bien vu.
Ils n'ont pas inventé la tarte aux poireaux, ICO, c'est la CNAMO. Ils sont la risée de quelques écolos qui leur dressent le majeur bien haut.
C'est toujours la même brigade qui intervient sur toute la France. J'ai fait la 69, la LGV Toulouse-Bordeaux, le parc des dinosaures à Trévoux, c'est moi qui ai remporté la lutte avec Thomas Braille. J'ai fait Lyon-Turin, je fais à peu près toutes les luttes du grand contournement de Valence, là où ils étaient la semaine dernière et qu'ils ont fait tomber une copaine à moi qui était sur une tyrolienne. Ils ont carrément coupé la tyrolienne et elle était dessus. On imagine un peu la chute. Ouais, ils ont des méthodes barbares et on les connaît, c'est toujours les mêmes. Toute mère, il n'y a qu'une seule brigade en France, ils sont 18 et on les connaît par cœur.
Que des hommes ?
Que des hommes, ouais. Ils ont, je pense, l'intention de recruter des femmes parce qu'ils se sont retrouvés sur la 69 avec des femmes qui se sont mis nues complètement, en fait. Et ils ne pouvaient pas les toucher et tout ça. Et là, je pense qu'ils sont en train de recruter, mais...
Ils n'ont pas inventé les poches au manteau, ICO, c'est la CNAMO. Ils sont rouges comme des alcoolos, à force de nous mater de bas en haut.
Quoi, tu envisages de pouvoir te mettre nu toi aussi?
Bah moi ils viendraient m'attraper quand même, mais après moi ils me connaissent parce que bon, vu que je suis sur toutes les luttes, ils m'ont considéré là à mon dernier jugement que j'ai eu début août à Compiègne.
Ils vous ont vite décroché d'ailleurs.
J'étais pas dans l'arbre quand ça s'est passé, mais mes copains y étaient parce que bon, moi je les ai aidés à monter dans l'arbre et après moi je fais ma vie, je me repose un peu aussi quoi. Quand je suis arrivé le lendemain, il y avait les journalistes, je montrais aux journalistes comment on grimpe, tout ça, c'était juste une action de communication. On n'allait pas occuper les lieux devant, en plein centre-ville de Compiègne, quoi. C'était juste pour informer les gens, on avait prévenu, tout ça, ils étaient au courant. Sauf qu'eux, ils ont voulu sortir les grands moyens, et là, ils ont déployé la CNAMO. Et la CNAMO, vu qu'ils me connaissaient, moi, ils ont décidé de m'interpeller, moi, tout de suite au sol, alors que j'étais au sol. Et ils ont considéré que j'étais le leader d'Agiprop. La J-Prop, c'est une façon festive de faire la révolution. Du coup, même le procureur, il a dit, bon, bah non, j'ai rien contre vous, je vais pas faire de procès contre vous. Il a pas fait de procès, et puis voilà, quoi.
Il semble même que les policiers compiénois étaient eux-mêmes sidérés de la débauche de moyens policiers.
Policiers, ouais, tout à fait. Nous, le commissaire de police, on le connaît, on le voit assez souvent parce qu'on fait pas mal d'événements sur Compiègne. Et il le dit, quoi, bah vous êtes des personnes gentilles, on n'a jamais de problème avec vous. On comprend pas pourquoi on met autant de démesures comme ça contre vous, on voit pas ce qui se passe. Parce qu'ils savent très bien qu'on s'attaque à des projets. En fait, moi, j'ai une phrase, c'est quand vous mettez un banquier à la gestion d'un gouvernement, c'est comme mettre un alcoolique à la gestion d'une cave à vin. Lui, il est là pour faire du fric, en fait. Tous les vieux projets de 30 ans, comme que ce soit l'autoroute A69, la LGV Toulouse-Bordeaux, la LGV Lyon-Turin, le grand contournement de Valence, tous ces projets-là, en fait, si vous voulez, c'est des projets qui ont été enterrés il y a 30 ans, que Macron, lui, a dépoussiéré. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont financé sa campagne électorale, c'est NGE, Bouygues, Vinci, et ils leur rendent service en leur offrant ces chantiers-là. Voilà, tout simplement. Il y a un documentaire qui est super, c'est Off Investigation, les dessous de la 69. Et là, vous allez voir, il y a tout le système financier de Macron payé par Atos, Rothschild, tout ça. C'est impressionnant, en fait.
C'est accessible sur YouTube, hein, et c'est remarquable.
Ouais, c'est ça, on peut le trouver facilement, même sur leur site. C'est même passé à la télé, je crois. Hein. Tout le monde est au courant.
Ils n'ont pas inventé la pêche au gros, ICO, c'est la CNAMO. Pour les qualifier, je n'ai que des gros mots, mais je les garde pour les généraux.
Depuis la 69, les écureuils du GNSA connaissent suffisamment bien les policiers de la CNAMO pour les interpeller par leur prénom, Thomas.
Oui, après, c'est vrai que j'ai pas la même approche, peut-être un petit peu, que toutes les personnes qui luttent avec les forces de l'ordre. Alors, je dis pas qu'ils font que de belles choses, hein, parce qu'on assiste à des choses parfois qui sont assez terrifiantes. Même moi, j'ai pris des coups de matraque, voilà.
En hauteur?
Pas en hauteur, non. J'étais au sol, ça c'était pour la 69. Mais en fait, moi, là où je suis vraiment intéressé, et là où je pointe vraiment du doigt, c'est les donneurs d'ordre, en fait. C'est les personnes qui les envoient sur le terrain pour nous faire subir ça, en fait. C'est après eux, moi, que j'en ai, en fait. Après, bien entendu, je dis pas qu'ils font que de belles choses. Je pense que il y en a qui sont contents d'aller peut-être casser de l'éco-terroriste, comme ils disent, mais je pense pas que ce soit la grande majorité de ces personnes-là qui soient contents d'aller faire le travail qu'on leur demande. Je pense qu'il y en a qui doivent être atterrés de voir qu'au final, ben, on se bat pour finalement les mêmes choses, on se bat pour leurs enfants et qu'on les envoie sur des terrains d'action qui... Je pense qu'ils préféreraient aller peut-être arrêter les narcotrafiquants ou peut-être s'occuper d'autres choses que de venir nous embêter à nous. Ça, c'est ma philosophie. Après, tout le monde ne la partage pas, je peux arriver à le comprendre. Mais oui, bien sûr qu'on se connaît avec ces gens-là, on fait le même métier qu'eux. On a des mousquetons, on a des baudriers. Quand j'étais à Vendigne il y a 2 ans, je connais le chef de cette section. Voilà, j'ai discuté avec lui, on a le même âge. J'ai échangé sur plein de choses avec lui. Bien évidemment, il était dans le dialogue pour essayer de me faire descendre. Ça n'a pas été le cas, je suis resté là-haut. Pour avoir un peu compris intérieurement ce que lui pensait. Il a 51 ans, j'ai 51 ans. Je pense que je pourrais avoir un discours avec lui autre que sur un terrain d'action. Et je pense qu'on pourrait avoir des points communs et se retrouver sur des propos qui, au final, sont les mêmes, quoi, sur les enfants, sur qu'est-ce qu'on laisse comme planète à nos gosses. Et après, bien évidemment, comme je dis, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il y a des gens bien. Il y a des gens mauvais, et je pense qu'il y en a un peu partout, des gens bons et des gens mauvais. J'arrive pas à me dire que tous les flics, ça pourrait être des cons, quoi, parce que je pense que c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai discuté avec des gendarmes qui comprenaient. J'en ai même qui ont fait des selfies avec moi en me disant que c'était pour leur fils, parce que leur fils aimait ce que je faisais. Voilà, donc tu vois, c'est tout le paradoxe de ça, en fait. Moi, je vis des choses, parfois, avec les forces de l'ordre, qui sont aux antipodes de ce qu'on pourrait peut-être penser, de dire que c'est tous des pourris. Bien sûr, il y a des pourris, oui, il y a des cons, il y en a qui ont envie de nous taper sur la gueule, mais il y en a d'autres qui n'ont pas envie forcément de ça non plus, quoi. Voilà, quoi.
Il peut y avoir recours quand même à des méthodes extrêmement violentes. J'ai entendu parler d'une copaine écureuil qui était sur une tyrolienne et la corde a été tranchée et elle s'est blessée. Il y a des chutes à 6, 8 mètres.
Oui, oui, mais tout à fait. Mais après, je remets rien en question là-dessus. Le gars qui a coupé la corde, pour moi, c'est un idiot. Il n'a rien à faire chez les forces de l'ordre, celui-là, par contre. Voilà, je le dis clairement. On ne coupe pas la corde, on ne met pas les gens en danger. Le but des gendarmes, c'était la veuve et l'orphelin, il me semble, hein, quand même, hein, à la base. C'est ça, c'est défendre la veuve et l'orphelin. On coupe pas la corde de quelqu'un, qu'il soit contre un projet ou pour ou contre, ou je ne sais rien, on coupe pas la corde de quelqu'un qui est accroché. En plus, c'est leur métier, ils savent très bien que si on coupe une corde, ben on va au tas, quoi, direct. Donc non, là, bien sûr, ça, je le condamne profondément. Mais voilà, ça fait partie, comme je dis, de ces personnes que ça dérange pas de casser du militant ou je ne sais rien. Voilà, ça, c'est compliqué, bien sûr.
Je reviens sur la 69. Ce qui a donné 6 mois de sursis au chantier, c'était le fait de pouvoir filmer une mésange qui nichait. Or, la mésange, elle est protégée. Donc, l'image et le regard de ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est extrêmement important. Et un de tes camarades écureuils expliquait aussi que une manière de les faire reculer, c'était de se mettre soi-même en danger. Alors, cette règle un peu absurde de on s'arrime à une branche qui est en principe grosse comme la cuisse, ce qui veut rien dire parce qu'il y a des arbres plus cassants que d'autres. Et le camarade expliquait que quand la police des arbres, quand la CNAMO est là, grimper un peu plus au sommet et s'arrimer à des branches qui sont plus grosses comme une cuisse, mais comme un avant-bras. Et le fait de se mettre soi-même en danger, que ce soit potentiellement filmé.
C'est la stratégie que moi aussi j'utilise depuis le début. C'est-à-dire que j'ai toujours dit aux grimpeuses et aux grimpeurs, si vous sentez que ça sent mauvais, vous montez plus haut, vous vous détachez. Normalement, quand on se détache et qu'on monte plus haut, on n'est plus en sécurité. Donc... L'idée, on ne devrait même pas avoir à faire ça parce que c'est très dangereux déjà et d'une, mais...
C'est des coups à se tuer ou devenir hémiplégique.
Oui, oui, bien sûr. Mais après, ce qui fait la force aussi de notre action, c'est que moi, depuis le début, j'ai toujours filmé ce que je faisais, en fait. Et maintenant, on a la possibilité de faire du live, en fait. Du live sur des comptes comme Instagram. Et à partir du moment où on se met en live, c'est sûr que les gens peuvent suivre... Il n'y a rien qui ment, là. Il n'y a pas de fake news, il n'y a rien qui est montré, il n'y a pas d'image fausse. On est en direct, on filme. Et à partir du moment où on est en direct et où on filme, tout le monde s'arrête en fait. Parce que là, la moindre erreur, elle est fatale pour celui qui l'a faite. C'est le mode d'action du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. Voilà. Donc d'autres l'utilisent maintenant et tant mieux. Ça paye, c'est efficace et tant mieux en fait. Nous, on n'a pas d'armes en fait, on n'a rien. Notre seule arme, ce sont nos cordes et nos téléphones. Nous, on est dans la non-violence, je parle pour le GNSA, on est vraiment dans la non-violence. On essaye de faire comprendre les choses par non-violence. On y arrive, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est notre façon de faire. On fait du mieux qu'on peut, quoi. Voilà.
La 69, ça n'a pas forcément été facile aussi entre militantes et militants, parce que construire une lutte avec des gens qui viennent de partout, qui n'ont pas forcément les mêmes analyses politiques, etc. Je me suis laissé dire que ça pouvait être un peu rugueux aussi, même entre zadistes, si j'ose dire. Donc voilà, il y a eu des choses tendaxes, mais est-ce qu'il y a aussi eu des belles choses ?
Oui, moi j'ai quand même envie de dire qu'il y a plus de belles choses que de mauvaises choses dans une lutte. Bien évidemment, on rencontre des personnes de tout horizon qui ont des pensées toutes différentes. Je pense quand même qu'il y a un respect mutuel entre les uns et les autres. Après, quand il y a des tensions, moi, comme j'ai toujours dit, moi je suis dans le dialogue. Hein. Parfois, on m'a un petit peu critiqué sur certaines choses.
Trop conciliant, trop légaliste, trop républicain.
Après, c'est bête, mais je vais avoir 51 ans. Tout ça, je connaissais pas, moi, tout cet univers-là, en fait. Des ZAD, j'avais jamais côtoyé de ZAD, je savais pas ce que c'était, en fait. J'avais jamais percé vers ce milieu où vraiment on est au contact, et vraiment on est sur les zones d'action, les zones à risque. Moi, tout ça, je connaissais pas avant la 69. J'avais fait des actions pour sauver des arbres, mais ça n'avait rien à voir de ce que vraiment une lutte. J'ai mis le nez là-dedans, je sais aujourd'hui ce que c'est que l'odeur des gaz lacrymogènes, je sais tout ça, mais je ne l'ai pas fait par envie, je l'ai fait par nécessité, en fait, quoi. Et du coup, on se retrouve face à des personnes, parfois qui sont plus jeunes, qui ont une autre façon de penser, des modes de vie et de pratiques que moi, je ne connaissais pas.
Plus radical, tu entends.
Oui, bien sûr, mais aussi plus radical. Mais je ne suis pas dans la critique du radical. Je pense qu'il faut tout dans une lutte, sinon on n'avance pas, quoi. Mais moi, il y a des choses que je ne sais pas faire et qui font très bien. Et peut-être qu'il y a des choses que nous, on fait et qu'ils ne savent pas faire aussi. Parce que grimper dans les arbres, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que même s'il y a eu des moments de friction, toutes ces personnes-là que je côtoie, en fait, de toutes les associations différentes, quelles qu'elles soient, tout ça, pour moi, c'est, aujourd'hui, c'est une vraie famille, en fait.
Y compris les vilains Black Bloc, éco-terroristes.
Franchement, qu'est-ce qui est vilain, quoi, aujourd'hui, voilà.
J'ai bien compris la caricature absurde.
Mais bien entendu, après, les Black Blocs, ils risquent tellement qu'il vaut mieux qu'ils soient masqués, je ne suis pas arrivé à le comprendre. Enfin, en tout cas, moi, voilà, ces gens-là, je comprends aujourd'hui la lutte qu'ils mènent, je comprends que tous ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont plus trop espoir à la politique, ils voient qu'ils ont plus forcément trop d'avenir. Faire des études, pourquoi? Ben, moi, j'aurais leur âge aujourd'hui, je me demanderais, je me poserais peut-être la question. Et je serais peut-être aussi à leur place, peut-être plus radical si j'avais 20 ans aujourd'hui, parce que quand on vous offre pas d'avenir, quand le gouvernement a démissionné, ben, en fait, c'est quoi leur avenir à ces gosses au niveau professionnel, au niveau familial? J'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent pas d'enfants. Alors moi aussi, j'en voulais pas, c'est arrivé par hasard. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais je peux arriver à comprendre des gamins qui disent « je ne veux pas d'enfants » pour les amener vers quoi et vers où, en fait. Et donc tout ça, bien sûr que ça participe à... Ils ont un mental aujourd'hui qui n'est pas le nôtre parce qu'il n'y a rien de drôle et tout est noir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me sens vraiment en famille quand je vais sur les terrains de lutte parce que je pense qu'on est une infime minorité à lutter pour qu'une grande majorité en profite. Et moi, je suis toujours reconnaissant de cette infime minorité de gens éveillés, contrairement à cette grande majorité qui est un peu endormie, quoi. Voilà.
Évidemment, il n'y a pas de recette magique ou de méthode pour une lutte. Hein. Chaque lutte s'invente, comme vous avez inventé votre lutte sur la 69. Est-ce à dire, malgré tout, que sur une lutte, il y a toujours besoin de ce qu'on appelle un rapport de force? Je ne dis pas un besoin de violence, je dis un rapport de force. Oui, à Sainte-Soline, il y a une fourgonnette de gendarmerie qui a pris feu. Il faut probablement un cocktail Molotov. Mais enfin, sinon, j'ai vu ces gens se battre avec des cailloux, des mottes de terre, éventuellement des pétards. Est-ce à dire que pour que des représentants des institutions puissent avoir un dialogue, il faut des Julien Leguay, il faut des Thomas Braille, et que en fait, ce dialogue il ne peut exister que parce qu'il y a des gens qui ont eu le courage de proposer un rapport de force? Est-ce que le rapport de force est, hélas, nécessaire et inévitable pour se faire entendre?
Parfois, on nous reproche d'être un peu trop mis en avant, mais moi, je n'ai pas voulu être mis en avant au début. Ce n'est pas quelque chose que j'ai programmé. Je suis monté dans un arbre parce qu'il était en danger, et de là, tout est parti, et de là, les micros se sont tendus. Je suis conscient aussi que le fait qu'on mette des visages en avant, il faudrait que ce soit tout le monde qui soit mis en avant, mais c'est sûr que les médias, quand ils arrivent, il faut bien qu'ils parlent à quelqu'un, et tout ça, c'est assez compliqué. Mais le rapport de force, bien sûr, qui doit y être obligatoirement, sinon c'est la porte ouverte à faire encore des choses complètement indécentes et continuer à défoncer le vivant. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des rapports de force, et heureusement qu'il y en a. On doit représenter peut-être ces personnes-là. Moi, je fais en sorte de donner de plus en plus la parole à des représentants du GNSA. Il y a des antennes locales qui se créent. Le fait de créer des antennes locales, c'est justement pour qu'il y ait d'autres personnes qui, sur des lieux un petit peu partout en France, soient des lanceurs d'alerte. Ils deviennent les yeux et la bouche du GNSA. Et l'idée, c'est pas que moi je sois toujours mis en avant, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de mettre de nouvelles personnes pour qu'à un moment donné, nous on puisse s'extraire et que le GNSA puisse continuer à vivre sans qu'il y ait toujours les mêmes personnes au micro.
Et puis hélas, dans la lutte, le fait que certains, certaines soient en avant et soient les porte-parole et soient ceux qui prennent la lumière et les coups et les assignations au tribunal, ça permet aussi à des camarades de rester de plus dans la discrétion et plus dans l'ombre. On parlait d'espèce parapluie tout à l'heure, le porte-parole c'est, ou la porte-parole, c'est aussi un parapluie pour les autres.
Il ne faut pas se leurrer non plus, la médiatisation elle nous protège. Moi je pense que si j'ai eu peut-être aussi au tribunal une relaxe pour état de nécessité climatique, ce qui est très rare, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que aussi je fais du bruit médiatiquement aujourd'hui. On est sur les réseaux sociaux aussi, plus on a de followers aujourd'hui, ça veut dire enfin toutes ces personnes-là qui nous suivent sur les réseaux, plus on a une légitimité au niveau des médias et on a aussi une légitimité par rapport à l'opinion publique et le travail que l'on fait. Tout ça, ça nous protège, il faut pas se leurrer, quoi. Et cette légitimité, quand on l'a, cette protection, quand on l'a, en fait, il faut la, comme tu l'as dit, on est des espèces parapluies, ça veut dire qu'il faut que l'on aille prêter main forte à toutes ces jeunes et ces jeunes qui luttent et qui, eux, n'ont pas cette protection médiatique. Donc, il faut aller les aider, il faut porter notre voix et dénoncer. C'est pour ça qu'on est un peu partout, à droite, à gauche, quand on nous demande. Parce que quelque part, on est un peu écouté quand on parle, mais du coup, on doit aller porter la voix de ceux qui n'ont pas cette écoute, quoi. Et ça, c'est vraiment primordial. Si c'est pour rester chez soi, être connu, médiatique, et rester chez soi et plus rien foutre, enfin, ça sert à rien, quoi. Tout ça, c'est perdu, quoi, pour la lutte, quoi. Voilà.
La joie dans la lutte, est-ce que ça fait partie du moteur aussi? Est-ce que vous avez connu des moments de fraternité, de sororité, d'adelphité, de joie entre vous pendant cette lutte? Est-ce qu'il y a eu aussi des moments où vous vous êtes tenu chaud, où vous vous êtes fait rire? Oui. Je m'excuse, ça paraît un peu déplacé au vu de la gravité de ce qu'on dit, mais est-ce que c'est important, en fait?
Oui, la Voix Libre, c'est le collectif emblématique qui lutte contre la 69. Ce collectif, la Voix Libre, en fait, ce que j'aime, c'est qu'ils ont toujours des idées novatrices. Quand il y a des manifestations, alors c'est cumulé maintenant avec les soulèvements, avec XR et tout. En fait, ces manifestations, elles se font dans la joie et dans la bonne humeur, pour faire un petit pied de nez aussi à cet état qui, moi, je trouve un petit peu noir. Ils nous assombrissent l'avenir du matin au soir. Et donc, nous, on n'a pas envie de ça. On a envie de montrer à la population qu'on peut lutter dans la joie. L'autre fois, il y avait eu une course de bolide fabriquée avec des bananes, un petit peu comme dans Mario Kart, sur le tracé de la 69. C'était assez drôle et assez rigolo. Heureusement qu'il y a des moments de joie. En fait, c'est le yo-yo émotionnel, hein. Les luttes, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Quand on nous apprend que le 27 février, le tribunal administratif annule la 69 pour raison impérative d'intérêt public majeur, bien sûr qu'on a sauté au plafond. Enfin, moi, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, du coup. J'ai appelé mon fils, même s'il était petit, j'ai voulu lui parler. Et voilà, il y a des hauts, du haut, et puis après, ben, on retourne un peu down, parce que voilà, et puis à nouveau, on verra. De toute façon, la vie, elle n'est pas linéaire. Hein.
Je t'avoue, moi, qui m'y est arrivé en regardant la télévision il y a quelques mois de ça, il y avait interviewé à la télévision, dans un journal télévisé, un pro 69 qui a osé dire, vous vous rendez compte, on a commis un crime écologique pour rien. On n'a quand même pas fait tout ce mal pour rien. On va s'en servir de cette route qui nous a coûté un massacre écologique. Mais maintenant qu'on l'a fait...
C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent un peu aujourd'hui ce discours. Ils continuent à avancer pour faire basculer les personnes du territoire, pour les raccrocher à leur cause de cette autoroute qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence à être fait, que c'est bien attaqué, c'est bien avancé, les gens ils se disent bah, « maintenant on va pas le laisser comme ça, tant pis, c'est trop tard, c'est fini ». Et en fait, c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. Moi, je dis toujours, si demain, ces gens-là, ils voient que leur maison commence à brûler, commence à avoir un petit feu dans la cuisine, vous avez la possibilité de l'éteindre. Est-ce que vous l'éteignez ou est-ce que vous laissez brûler votre maison entièrement, en fait? En fait, c'est exactement le même principe avec la 69. Est-ce que c'est parce que c'est commencé, on l'arrête ou on le continue? Ben moi, je suis désolé. Tant qu'il n'y a pas les voitures qui polluent, tant qu'il n'y a pas les camions, tant qu'il n'y a pas toutes ces nuisances sonores, tant qu'il n'y a pas tout ça... Tant qu'il n'y a pas le bitume qui est coulé, tant que les usines à bitume ne sont pas construites et qu'elles ne vont pas déverser des substances chimiques dans l'air qui sont très proches de certaines écoles et de crèches, de villages aussi, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Moi, je pense qu'il faut arrêter. Ce projet-là, on peut le voir différemment. Il y a un autre projet qui a été proposé, le projet Une Autre Voie. Alors, ce n'est pas qu'une piste cyclable, parce que tout le monde est en train de dire « oui, mais on ne va pas faire du vélo là-dessus ». Non, ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'est de regagner ces terres agricoles, de faire des jardins potagers, des jardins ouvriers, de planter des vergers, de faire des zones où on va pouvoir faire du transport en commun, remettre en route les transports en commun, le ferroviaire aussi. Donc, il y a plein d'autres alternatives qui sont proposées. C'est pas parce que c'est attaqué qu'on peut pas faire autre chose avec, quoi. Voilà.
va se refaire un petit coup de Paloma avant la conclusion de cette conversation.
Un parc autour d'une maison, une famille, un petit garçon qui court tout nu dans le jardin, sur la terrasse, les copains. Dans la chaleur d'août, la fête passe en plein autour des jeux d'eau, des rires, des cris, des bons mots, des artistes et des bons gâteaux. Sur un mur, une fresque immense, un tractopelle qui avance. Derrière eux, les sourires inquiets, chacune attend les bulldozers, entend les CRS pervers, on se prépare depuis mai. Ce septembre avance en silence, quand Alexandra rend les clés, il n'y a plus ni chant ni danse, les écureuils sont montés. Sur un mur, une fresque immense, un fractopelle qui avance. Alors un nain, les pruniers, les tilleuls et les marronniers, cerisiers, platanes et frênes, tête et tronçonnés sans peine, mais avec peine. Sur un mur, une fresque immense, mais un vrai tractopelle avance, mise en abîme réaliste. Un jour les automobilistes pourront rouler dans les deux sens.
Il n'y a pas que Paloma qui est rentrée de la 69 avec des idées de spectacle. Thomas Braille monte toujours dans les arbres, mais aussi sur des planches de théâtre ou de bande dessinée.
J'ai toujours fait un petit peu de théâtre. J'ai fait beaucoup de musique. Hein. Ça fait 30 ans que je fais de la musique. Moi, je suis chanteur-guitariste, on faisait du rock à l'époque, voilà, Led Zeppelin, les Doors, Jimi Hendrix, tout ça, quoi. Enfin, on se régalait de jouer tout ça. Quand on a cette chance, je pense, de toucher un petit peu au métier de l'art aussi, il faut s'en servir, quoi. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec un spectacle qui s'appelle Éloge de la forêt, que Patrick Scheder a eu l'idée de mettre en place. Et en fait, ce spectacle-là, il mêle pianiste, acrobate, il y a des comédiens, une comédienne aussi. Moi, je suis dans le rôle du secrétaire de cabinet du président de la République. Je descends d'un arbre. En fait, je joue mon propre rôle, mais sauf que je peux jouer sur des terrains d'action. Mais là, je le joue face à un public qui est assis et qui paye une place de théâtre, finalement, quoi. Et en fait, je m'aperçois qu'on touche un autre public, ben, en fait, par le prisme de l'art. Et je trouve ça super, en fait, de le faire aujourd'hui. Je pense que d'aller sur un terrain d'action avec des gaz lacrymogènes, des propositions de garde à vue, y a rien de sexy là-dedans, en fait, quoi. Et ça donne pas forcément envie aux gens de nous suivre. Par contre, quand on touche au monde de l'art et de la culture, eh bien voilà, on touche notre public. Moi, tout ça, en fait, aujourd'hui, ça m'intéresse. Là, je suis en train de travailler un album de musique pour récupérer des fonds pour le GNSA, avec Sébastien Houg, un très grand guitariste, qui est le compagnon de Jean Chiral. Et on est en train de voir, en fait, pareil, de faire un morceau de musique pour essayer de récolter des fonds pour le GNSA. Mais on s'aperçoit qu'on touche vraiment, vraiment, vraiment notre public. Et moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui. J'ai besoin d'élargir la zone d'impact, parce que sinon, on reste dans un milieu qui est quand même assez fermé. Et il y a besoin d'élargir, en fait, quoi. Voilà.
Et cette bande dessinée, c'est quoi ?
Oui, il y a aussi un roman graphique qui est sorti aux éditions Actes Sud, qui s'appelle Le Défenseur des Arbres, qui est l'attention des ados. Et c'est le premier livre, en fait, où on apprend aux ados à grimper les arbres et à leur dire qu'il faut en prendre soin et qu'il faut les protéger. Et je trouve ça, mais alors, super, en fait. C'est le tout premier livre qui dit aux ados comment grimper les arbres pour les sauver, quoi. Ils ont repris un petit peu toutes les luttes que j'ai menées un petit peu partout depuis 6 ans, que ce soit en France ou en Guyane. Et ils l'ont retranscrite via un petit garçon, enfin un ado qui s'appelle Jules. En fait, j'ai tenu à ce que cet ado porte le nom de mon fils.
Comme si ces écureuils de la 69 avaient fait des petits un petit peu partout.
Oui, oui, le terme écureuil, en fait, les médias s'en sont emparés, et tant mieux. Parce que pour une fois qu'ils s'emparent d'un terme qui, à mon sens, est joli. Quand je dis joli, c'est parce que je connais peu de personnes qui auraient envie de faire de mal à un écureuil. Ce sont des petites bêtes qui sont gentilles, mignonnes, qu'on a envie de protéger. En fait, il y a un grimpeur du GNSA qui a pris un arbre sur la 69 et qui, à un moment donné, a jeté. Une fois qu'il était en haut de l'arbre, il a dit « tant qu'il y aura des arbres, il y aura des écureuils ». Et cette expression, elle est restée, en fait. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, elle nous sert. Quand on parle des écureuils, ben, on a tout de suite en tête la 69. Et tout le monde s'en est emparé, et tant mieux, que ce soit le GNSA, XR, ou voilà. Donc, autant y aller gaiement, quoi.
Une fois sorti de scène du spectacle, tu regrimperais ?
Pour lutter, non, je ne m'enlève pas pour l'instant le fait de continuer à aller grimper. Je ne m'exclus pas de le faire, mais il y a maintenant des grimpeuses et des grimpeurs qui ont rejoint le GNSA et qui ont envie de le faire. Je ne dis pas que je ne le referai pas, parce que encore à l'heure actuelle, c'est sûr que le regard médiatique, il est un peu plus fort. Si je suis dans un arbre, les médias arrivent un peu plus si je suis là. Mais l'idée, c'est quand même de mettre en place des nouvelles figures, des nouvelles têtes, et qu'ils puissent s'emparer du sujet. Il y a eu plein d'actions qui ont été menées sans ma présence et j'en suis content. Comme je leur ai dit, j'ai même pas été informé parfois des actions qu'ils mènent, hein, parce qu'il y a un pôle action au GNSA et ça c'est chouette. Ça leur a pas empêché d'avoir non plus des médias. L'idée à terme, c'est que moi, je ne sois pas toujours dans les arbres à grimper. Parfois, ils le font. Moi, je leur apporte mon soutien au sol pour les sécuriser au niveau parfois des forces de l'ordre qui arrivent et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est plus facile si c'est moi qui suis en bas pour intervenir. Mais voilà. Après, je ne m'interdis pas de le faire non plus parce que c'est vrai que ça me plaît. Ça me fait marrer d'être là-haut. J'ai besoin d'être connecté aux arbres. J'ai besoin d'être au cœur parfois des luttes. Mais il est vrai que... je suis moins présent aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des équipes qui sont efficaces et qu'ils sont totalement autonomes et que parfois, même professionnellement, je trouve qu'ils me dépassent ce que je fais et tant mieux, quoi.
Toi et tes camarades, vous avez bien donné place à d'autres qui sont en train de se former ou qui sont déjà formés. Oui. T'as bien raison aussi de t'occuper de toi et des tiens. Personne t'en voudra.
Oui, j'ai un petit garçon qui grandit de plus en plus et qui comprend maintenant ce qui se passe, qui comprend les choses, qui est dans une phase où il a besoin de son papa maintenant, quoi. Quand il était tout petit, c'est sûr que c'était un petit peu plus facile pour moi, malgré le fait que je suis un garde alterné. Je sais ce que c'est, changer les couches, de passer les nuits. Mais après, voilà, quand il y a de la garde alternée, les moments où j'étais pas avec lui, il était chez sa maman, ben en fait, je repartais en lutte. Et puis quand c'était ma semaine, ben il fallait bien s'occuper de son petit garçon. Et quelque chose que je ne regrette absolument pas, parce que ça m'a obligé quelque part aussi à m'impliquer à 200% dans sa construction et dans son éducation. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un lien très fort avec mon petit garçon. L'idée, non, comme je le dis aussi, c'est pas... d'aller lutter et d'être absent de la cellule familiale quand il doit être avec moi. Ce serait contre-productif aussi de faire ça. Je me donne des plages où je puisse être avec lui et les plages où il est chez sa maman, que moi, je puisse aller lutter. Mais aujourd'hui, je fais attention de ne pas mélanger tout, quoi. Voilà. Voilà.
Thomas, je te remercie pour cette discussion à bâton rompu. Bon vent et bonne suite aussi pour tous les projets. Merci à tes copaines et camarades, et notamment écureuils et autres. À bientôt peut-être.
Merci beaucoup. Je terminerai juste en disant que, en fait, on se divise toutes et tous aujourd'hui. Je pense que le point d'accroche que l'on peut quand même arriver à trouver pour une grande majorité, notamment ceux qui ont des enfants, en fait, ben, c'est justement les enfants, en fait. Que ce soit les agriculteurs qui passent des pesticides et qui ont du mal à trouver un autre modèle économique, que ce soit les gars du BTP qui poussent des gros bulldozers et qui bousillent de la terre agricole parfois pour des fins un peu inutiles. Même les forces de l'ordre, ben en fait, je pense qu'on peut arriver à trouver un point d'accroche qui est celui des enfants. Et quand on aura compris ça, en fait, on avancera dans le même sens toutes et tous, quoi. Voilà, merci.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cet échange avec Thomas Vraille, enregistré en octobre 2025 au cours d'une escale de l'expédition Bateau Labo, qu'on remercie aussi. Depuis, vous le savez sûrement, la saga judiciaire de l'A69 a hélas repris un tournant dramatique. Vous pouvez télécharger cette émission via notre site, polémique-c'est-la-voix-off.com, avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre préférée, mais pour combien de temps ? Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut !